Suite du chapitre 9. Et elle prenait une mine de dégoût. Puis, elle tourna au sentiment. Elle ajouta sur un ton mélancolique : Je sais quelque chose qui vaut mieux que l'argent. Ah, si l'on me donnait ce que je désire. Il releva lentement la tête. Ses yeux eurent une lueur d'espoir. Oh, tu ne peux pas me le donner, reprit-elle. Ça ne dépend pas de toi, et c'est pour ça que je t'en parle. Enfin, nous causons. Je voudrais avoir le rôle de la femme honnête dans leur machine. Quelle femme honnête ? Murmura-t-il étonné. Quelle femme honnête ? Murmura-t-il étonné. Leur duchesse Hélène, donc. S'ils croient que je vais jouer Géraldine plus souvent, un rôle de rien du tout, une scène, et encore. D'ailleurs, ce n'est pas ça. J'ai assez des cocottes, toujours des cocottes. On dirait vraiment que j'ai seulement des cocottes dans le ventre. À la fin, c'est vexant, car je vois clair, et ils ont l'air de me croire mal élevée. Ah bien, mon petit, en voilà qui se fourre le doigt dans l'œil. Quand je veux être distinguée, je suis d'un chic. Tiens, regarde un peu ça. Et elle recula jusqu'à la fenêtre, puis revint en se rengorgeant, en mesurant ses enjambées, avec des airs circonspects de grosses poules hésitant à se salir les pattes. Lui la suivait, les yeux encore pleins de larmes, hébété par cette brusque scène de comédie qui traversait sa douleur. Elle se promena un instant, pour bien se montrer dans tout son jeu, avec des sourires fins, des battements de paupières, des balancements de jupe, et, plantée de nouveau devant lui, « Hein ? Ça y est, je crois !»« Oh, tout à fait » balbutia-t-il, étranglé encore, les regards troubles. « Quand je te dis que je tiens la femme honnête, j'ai essayé chez moi. Pas une n'a mon petit air de duchesse qui se fiche des hommes. As-tu remarqué, lorsque j'ai passé devant toi, en te lorgnant ? On a cet air-là dans les veines. Et puis, je veux jouer une femme honnête. J'en rêve, j'en suis malheureuse. Il me faut le rôle, tu entends ?» Elle était devenue sérieuse, la voix dure, très émue, souffrant réellement de son bête de désir. Muffa, toujours sous le coup de ses refus, attendait sans comprendre. Il y eut un silence. Pas un vol de mouche ne troublait la paix de la maison vide. « Tu ne sais pas ? » reprit-elle carrément. « Tu vas me faire donner le rôle. » Il resta stupéfait, puis, avec un geste désespéré, « Mais c'est impossible ! Tu disais toi-même que ça ne dépendait pas de moi. » Elle l'interrompit d'un haussement d'épaule. « Tu vas descendre, et tu diras à Bordenave que tu veux le rôle. Ne sois donc pas si naïf. Bordenave a besoin d'argent. Eh bien, tu lui en prêteras, puisque tu en as à jeter par les fenêtres. » Et, comme il se débattait encore, elle se fâcha. « C'est bien, je comprends. Tu crains de fâcher Rose. Je ne t'en ai pas parlé de celle-là lorsque tu pleurais par terre. J'aurais trop long à en dire. Ouais, quand on a juré à une femme de l'aimer toujours, on ne prend pas le lendemain la première venue. Oh, la blessure est là, je me souviens. D'ailleurs, mon cher, ça n'a rien de ragoûtant, le reste des mignons. Est-ce qu'avant de faire la bête sur mes genoux, tu n'aurais pas dû rompre avec ce sale monde ? » Il se récriait. Il finit par pouvoir placer une phrase. Hé, hey, je me moque de Rose, je vais la lâcher tout de suite. » Nana parut satisfaite sur ce point. Elle reprit. « Alors, qu'est-ce qui te gêne, Bordenave et le maître ? Tu me diras qu'il y a faucherie après Bordenave. » Elle avait ralenti la voix. Elle arrivait au point délicat de l'affaire. Muffa, les yeux baissés, se taisait. Il était resté dans une ignorance volontaire sur les assiduités de faucherie auprès de la comtesse, se tranquillisant à la longue, espérant s'être trompé, pendant cette nuit affreuse passée sous un porche de la rue Thébault. Mais il gardait contre l'homme une répugnance, une colère sourde. Eh bien, quoi, Faucherie, ce n'est pas le diable ! Répétait Nana, tâtant le terrain, voulant savoir où en étaient les choses entre le mari et l'amant. On en viendra à bout de Faucherie. Au fond, je t'assure, il est bon garçon. Hein ? C'est entendu ? Tu lui diras que c'est pour moi. L'idée d'une pareille démarche révolta le comte. Non, non, jamais ! Cria-t-il. Elle attendit. Cette phrase lui montait aux lèvres. Faucherie n'a rien à te refuser. Mais elle sentit que ce serait un peu raide comme argument. Seulement, elle eut un sourire, et ce sourire, qui était drôle, disait la phrase. Muffa, ayant levé les yeux sur elle, les baissa de nouveau, gênée et pâle. « Ah, tu n'es pas complaisant !» murmura-t-elle enfin. « Je ne peux pas !» dit-il plein d'angoisse. « Tout ce que tu voudras, mais pas ça, mon amour. Oh, je t'en prie !» Alors, elle ne s'attarda pas à discuter. De ses petites mains, elle lui renversa la tête, puis, se penchant, colla sa bouche sur sa bouche dans un long baiser. Un frisson le secoua. Il tressaillait sous elle, éperdu, les yeux clos. Et elle le mit debout. « Va !» dit-elle simplement. Il marcha. Il se dirigea vers la porte. Mais comme il sortait, elle le reprit dans ses bras, en se faisant humble et câline, la face levée, frottant son menton de chatte sur son gilet. « Où est l'hôtel ? » demanda-t-elle très bas, de l'air confus et rieur d'une enfant qui revient à de bonnes choses dont elle n'a pas voulu. « Avenue de Villiers. » « Et il y a des voitures ? » ?»«
Oui. »
« Des dentelles, des diamants ? » ?»«
Oui. »
Oh, que tu es bon, mon chat. Tu sais, tout à l'heure, c'était par jalousie. Et cette fois, je te jure, ce ne sera pas comme la première, puisque maintenant tu comprends ce qu'il faut à une femme. Tu donnes tout, n'est-ce pas? Alors je n'ai besoin de personne. Tiens, il n'y en a plus que pour toi. Ça, et encore ça. Quand elle l'eut poussé dehors, après l'avoir chauffé d'une pluie de baisers sur les mains et sur la figure, elle souffla un moment. « Mon Dieu, qu'il y avait donc une mauvaise odeur dans la loge de cette sans soin de Mathilde !»« Il y faisait bon une de ces tranquilles chaleurs des chambres de Provence au soleil d'hiver, mais vraiment, ça sentait trop l'eau de lavande gâtée, avec d'autres choses pas propres. » Elle ouvrit la fenêtre, elle s'y accouda de nouveau, examinant les vitrages du passage pour tromper son attente. Dans l'escalier, Muffa descendait en chancelant, la tête bourdonnante. Qu'allait-il dire ? De quelle façon entamerait-il cette affaire qui ne le regardait pas ? Il arrivait sur la scène lorsqu'il entendit une querelle. On achevait le second acte. Prulière s'emportait, Faucherie ayant voulu couper une de ses répliques. « Coupez tout, alors ! » criait-il. « J'aime mieux ça. Comment ? Je n'ai pas 200 lignes et on m'en coupe encore. Non, j'en ai assez. Je rends le rôle. » Il sortit de sa poche un petit cahier froissé, le tourna dans ses mains fiévreuses, en faisant mine de le jeter sur les genoux de Cossard. Sa vanité souffrante convulsait sa face blême, les lèvres amincies, les yeux enflammés, sans qu'il pût cacher cette révolution intérieure. Lui, Prulière, l'idole du public, jouait un rôle de 200 lignes. « Pourquoi pas me faire apporter des lettres sur un plateau ? » reprit-il avec amertume. « Voyons, Prulière, soyez gentille !» dit Bordenave qui le ménageait à cause de son action sur les loges. « Ne commencez pas vos histoires, on vous trouvera des effets, n'est-ce pas, Faucherie ? Vous y ajouterez des effets. » Au troisième acte, on pourrait même allonger une scène. « Alors, déclara le comédien, je veux le mot du baisser de rideau. On me doit bien ça. » Faucherie eut l'air de consentir par son silence, et Prulière remit le rôle dans sa poche, secoué encore, mais content quand même. Bosque et Fontan, durant l'explication, avaient pris une mine de profonde indifférence. Chacun pour soi, ça ne les regardait pas. Il se désintéressait. et tous les acteurs entourèrent Fauchery, le questionnant, quêtant des éloges, pendant que Mignon écoutait les dernières plaintes de Prulière, sans perdre de vue le comte Muffa, dont il avait guetté le retour. Le comte, dans cette obscurité où il rentrait, s'était arrêté au fond de la scène, hésitant à tomber dans la querelle. Mais Bordenave l'aperçut et se précipita.
« Hein, quel monde ! » murmura-t-il.
« Vous ne vous imaginez pas, monsieur le comte, le mal que j'ai avec ce monde-là. Tous plus vaniteux les uns que les autres. Et carotteurs avec ça, mauvais comme la gale, toujours dans de sales histoires, ravi si je me cassais les reins. Pardon, je m'emporte. »
Il se tut, un silence régna.
Muffa cherchait une transition, mais il ne trouva rien. Il finit par dire carrément, pour en sortir plus vite, « Nana veut le rôle de la duchesse. »
Bordenave eut un soubresaut en criant
« Allons donc, c'est fou !»
Puis, comme il regardait le comte, il le trouva si pâle, si bouleversé, qu'il se calma aussitôt.
« Diable ! » dit-il simplement.
Et le silence recommença. Au fond, lui s'en moquait. Ce serait peut-être drôle, cette grosse nana dans le rôle de la duchesse. D'ailleurs, avec cette histoire, il tenait Muffa solidement. Aussi, sa décision fut-elle bientôt prise. Il se tourna et appela « Fauchery !»
Le comte avait eu un geste pour l'arrêter. Fauchery n'entendait pas. Poussé contre le manteau d'Arlequin par Fontan, il devait subir des explications sur la façon dont le comédien comprenait Tardiveau. Fontan voyait Tardiveau en marseillais avec de l'accent et il imitait l'accent. Des répliques entières y passaient. Était-ce bien ainsi? Il ne semblait que soumettre des idées dont il doutait lui-même. Mais Fauchery se montrant froid et faisant des objections, il se vexa tout de suite.
« Très bien. Du moment où l'esprit du rôle lui échappait, il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il ne le jouât pas. »«
Fauchery ! » cria de nouveau Bordenave. Alors le jeune homme se sauva, heureux d'échapper à l'acteur, qui demeura blessé d'une retraite si prompte.
« Ne restons pas là, » reprit Bordenave. « Venez, messieurs. »
Pour se garer des oreilles curieuses, il les mena dans le magasin des accessoires, derrière la scène. Mignon, surpris, les regarda disparaître. On descendait quelques marches. C'était une pièce carrée dont les deux fenêtres donnaient sur la cour. Un jour de cave entrait par les vitres sales, blafard sous le plafond bas. Là, dans des casiers qui encombraient la pièce, traînait un bric-à-brac d'objets de toutes sortes, le déballage d'un revendeur de la rue de Lappe qui liquide. Un pêle-mêle sans nom, d'assiettes, de coupes en carton doré, de vieux parapluies rouges, de cruches italiennes, de pendules de tous les styles, de plateaux et d'encriers, d'armes à feu et de seringues. Le tout sous une couche de poussière d'un pouce, méconnaissable, ébréché, cassé, entassé. Et une insupportable odeur de ferraille, de chiffon, de cartonnages humides, montait de ces tas où les débris des pièces jouées s'amoncelaient depuis 50 ans.
« Entrez !» répétait Bordenave. « Nous serons seuls au moins. »
Le comte, très gêné, fit quelques pas pour laisser le directeur risquer seul la proposition. Fauchery s'étonnait.
« Quoi donc ? » demanda-t-il.
« Voilà !» dit enfin Bordenave. « Une idée nous est venue. Surtout, ne sautez pas. C'est très sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de Nana dans le rôle de la duchesse ?»
L'auteur resta effaré, puis il éclata.
« Ah non, n'est-ce pas ? C'est une plaisanterie ! On rirait trop !»«
Eh bien, ce n'est déjà pas si mauvais quand on rit. Réfléchissez, mon cher. L'idée plaît beaucoup à monsieur le comte. »
Muffa, par contenance, venait de prendre sur une planche, dans la poussière, un objet qu'il ne semblait pas reconnaître. C'était un coquetier dont on avait refait le pied en plâtre. Il le garda, sans en avoir conscience, et s'avança pour murmurer
« Oui, oui, ce serait très bien. »
Fauchery se tourna vers lui avec un geste de brusque impatience.
Le comte n'avait rien à voir dans sa pièce, et il dit nettement « Jamais. Nana en cocotte tant qu'on voudra, mais en femme du monde, non, par exemple. »
« Vous vous trompez, je vous assure, » reprit Muffa qui s'enhardissait.
« Justement, elle vient de me faire la femme honnête. »«
Où donc ?»
demanda Faucherie, dont la surprise augmentait. « Là-haut, dans une loge. Eh bien, c'était ça. Oh, une distinction. Elle a surtout un coup d'œil, vous savez, en passant dans ce genre. »
Et son coquetier à la main, il voulut imiter Nana, s'oubliant dans un besoin passionné de convaincre ces messieurs.
Faucherie le regardait, stupéfait. Il avait compris. Il ne se fâchait plus. Le comte, qui sentit son regard, où il y avait de la moquerie et de la pitié, s'arrêta, pris d'une faible rougeur.
« Mon Dieu, c'est possible !»
murmura l'auteur par complaisance. « Elle serait peut-être très bien. Seulement, le rôle est donné, nous ne pouvons le reprendre à Rose. »«
Oh, s'il n'y a que ça !» dit Bordenave, « je me charge d'arranger l'affaire. »
Mais alors, les voyant tous les deux contre lui, comprenant que Bordenave avait un intérêt caché, le jeune homme, pour ne pas faiblir, se révolta avec un redoublement de violence de façon à rompre l'entretien.
« Eh non, eh non! Quand même le rôle serait libre, jamais je ne le lui donnerais. Là, est-ce clair? Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de tuer ma pièce. »
Il se fit un silence embarrassé. Bordenave, jugeant qu'il était de trop, s'éloigna. Le comte restait la tête basse. Il la releva avec effort. Il dit d'une voix qui s'altérait
« Mon cher, si je vous demandais cela comme un service ?»«
Je ne puis pas, je ne puis pas !» répétait Faucherie en se débattant. La voix de Muffa devint plus dure.
« Je vous en prie, je le veux !»
Et il le regardait fixement. Devant ce regard noir, où il lut une menace, le jeune homme céda tout à coup, balbutiant des paroles confuses.
« Faites, après tout, je m'en moque. Ah, vous abusez, vous verrez, vous verrez. »
L'embarras fut alors plus grand. Faucherie s'était adossé à un casier, tapant nerveusement du pied. Muffa paraissait examiner avec attention le coquetier qu'il tournait toujours.
« C'est un coquetier, » vint dire Bordenave obligeamment. « Tiens, oui, c'est un coquetier, » répéta le comte.
« Excusez, vous vous êtes empli de poussière, » continua le directeur en replaçant l'objet sur une planche.
« Vous comprenez, s'il fallait épousseter tous les jours, on n'en finirait plus. Aussi n'est-ce guère propre, hein ? Quel fouillis !
Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Il y en a encore pour de l'argent. Regardez, regardez tout ça !» Il promena Muffa devant les casiers, dans le jour verdâtre qui venait de la cour, lui nommant des ustensiles, voulant l'intéresser à son inventaire de chiffonnier, comme il disait en riant. Puis, d'un ton léger, quand ils furent revenus près de Faucherie,
« Écoutez, puisque nous sommes tous d'accord, nous allons terminer cette affaire.
Justement, voilà Mignon. » Depuis un instant, Mignon rôdait dans le couloir. Au premier mot de Bordenave, parlant de modifier leur traité, il s'emporta.
C'était une infamie. On voulait briser l'avenir de sa femme. Il plaiderait.
Cependant, Bordenave, très calme, donnait des raisons. Le rôle ne lui semblait pas digne de Rose. Il préférait la garder pour une opérette qui passerait après la petite duchesse. Mais comme le mari criait toujours, il offrit brusquement de résilier, parlant des offres faites à la chanteuse par les Folies Dramatiques. Alors Mignon, un moment démonté, sans nier ses offres, afficha un grand dédain de l'argent. On avait engagé sa femme pour jouer la duchesse Hélène. Elle la jouerait, quand il devrait, lui, Mignon, y perdre sa fortune. C'était affaire de dignité, d'honneur. Engagé sur ce terrain, la discussion fut interminable. Le directeur en revenait toujours à ce raisonnement. Puisque les Folies offraient 300 francs par soirée à Rose pendant 100 représentations, lorsqu'elle en touchait seulement 150 chez lui. C'était 15 000 francs de gain pour elle, du moment où il la laissait partir. Le mari ne lâchait pas non plus le terrain de l'art. Que dirait-on s'il envoyait enlever le rôle à sa femme? Qu'elle n'était pas suffisante, qu'on avait dû la remplacer? De là un tort considérable, une diminution pour l'artiste. Non, non, jamais. La gloire avant la richesse. Et tout d'un coup, il indiqua une transaction. Rose, par son traité, avait impayé un dédit de 10 000 francs si elle se retirait. Eh bien, qu'on lui donnât 10 000 francs, et elle irait aux Folies Dramatiques. Bordenave resta étourdi, pendant que Mignon, qui n'avait pas quitté le comte des yeux, attendait tranquillement. « Alors, tout s'arrange !» murmura Muffat soulagé. « On peut s'entendre !»« Ah, non, par exemple, ce serait trop bête !» cria Bordenave, emporté par ses instincts d'homme d'affaires. « 10 000 francs pour lâcher Rose, on se ficherait de moi !» Mais le comte lui ordonnait d'accepter, en multipliant les signes de tête. Il hésita encore, enfin, grognant, regrettant les 10 000 francs, bien qu'il ne dût pas sortir de sa poche, il reprit avec brutalité « Après tout, je veux bien. Au moins, je serai débarrassé de vous. » Depuis un quart d'heure, Fontan écoutait dans la cour. Très intrigué, il était descendu se poster à cette place. Quand il eut compris, il remonta et se donna le régal d'avertir Rose. « Ah bien, on en faisait un potin sur son compte. Elle était rasée. » Rose courut au magasin des accessoires. Tous se turent. Elle regarda les quatre hommes. Muffat baissa la tête. Fauchery répondit par un haussement d'épaule désespéré au regard dont elle l'interrogea. Quant à Mignon, il discutait avec Bordenave les termes du traité. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'une voix brève. « Rien, dit son mari. C'est Bordenave qui donne 10 000 francs pour ravoir ton rôle. » Elle tremblait, très pâle, ses petits poings serrés. Un moment, elle le dévisagea dans une révolte de tout son être. Elle qui d'habitude s'abandonnait docilement pour les questions d'affaires, lui laissant la signature des traités avec ses directeurs et ses amants. Et elle ne trouva que ce cri, dont elle lui cingla la face comme d'un coup de fouet. « Ah, tiens, tu es trop lâche !» Puis elle se sauva. Mignon, stupéfait, courut derrière elle. « Quoi donc ? Elle devenait folle !» Il lui expliquait à demi-voix que 10 000 francs d'un côté et 15 000 francs de l'autre, ça faisait 25 000, une affaire superbe. De toutes les façons, Muffat la lâchait. C'était un joli tour de force d'avoir tiré cette dernière plume de son aile. Mais Rose ne répondait pas, enragée. Alors, Mignon, dédaigneux, la laissa à son dépit de femme. Il dit à Bordenave, qui revenait sur la scène avec Fauchery et Muffat, « Nous signerons demain matin. Ayez l'argent. » Justement, Nana, prévenue par la Bordette, descendait triomphante. Elle faisait la femme honnête avec des airs de distinction pour épater son monde et prouver à ses idiots que, lorsqu'elle voulait, pas une n'avait son chic. Mais elle faillit se compromettre. Rose, en l'apercevant, s'était jetée sur elle, étranglée, balbutiant. « Toi, je te retrouverai. Il faut que ça finisse entre nous, entends-tu ?» Nana, s'oubliant devant cette brusque attaque, allait se mettre les poings aux hanches et la traiter de salope. Elle se retint. Elle exagéra le ton flûté de sa voix, avec un geste de marquise qui va marcher sur une pelure d'orange. « Hein ? Quoi ? » dit-elle. « Vous êtes folle, ma chère !» Puis elle continua ses grâces pendant que Rose partait, suivie de Mignon, qui ne la reconnaissait plus. Clarisse, enchantée, venait d'obtenir de Bordenave le rôle de Géraldine. Fauchery, très sombre, piétinait, sans pouvoir se décider à quitter le théâtre. Sa pièce était fichue. Il cherchait comment la rattraper. Mais Nana vint le saisir par les poignets, l'approcha tout près d'elle, en demandant s'il la trouvait si atroce. Elle ne la lui mangerait pas, sa pièce. Et elle le fit rire. Elle laissa entendre qu'il serait bête de se fâcher avec elle, dans sa position chez les Muffas. Si elle manquait de mémoire, elle prendrait du souffleur. On ferait la salle. D'ailleurs, il se trompait sur son compte. Il verrait comme elle brûlerait les planches. Alors, on convint que l'auteur remanierait un peu le rôle de la duchesse pour donner davantage à Prulière. Celui-ci fut ravi. Dans cette joie que Nana apportait naturellement avec elle, Fontan seul restait froid. Planté au milieu du rayon jaune de la servante, il s'étalait, découpant l'arête vive de son profil de bouc, affectant une pose abandonnée. Et Nana, tranquillement, s'approcha, lui donna une poignée de main. « Tu vas bien ?»« Mais oui, pas mal. Et toi ?»« Très bien, merci. » Ce fut tout. Il semblait s'être quitté la veille à la porte du théâtre. Cependant, les acteurs attendaient. Mais Bordenave dit qu'on ne répéterait pas le troisième acte. Exact par hasard, le vieux Bosque s'en alla en grognant. On les retenait sans nécessité, on leur faisait perdre des après-midi entières. Tout le monde partit. En bas, sur le trottoir, ils battaient des paupières aveuglées par le plein jour, avec l'ahurissement de gens qui ont passé 3 heures au fond d'une cave à se quereller dans une tension continuelle des nerfs. Le comte, les muscles brisés, la tête vide, monta en voiture avec Nana, tandis que la Bordette emmenait Faucherie, qu'il réconfortait. Un mois plus tard, la première représentation de « La petite duchesse » fut, pour Nana, un grand désastre. Elle s'y montra atrocement mauvaise. Elle eut des prétentions à la haute comédie qui mirent le public en gaieté. On ne siffla pas, tant on s'amusait. Dans une avant-scène, Rose Mignon accueillait d'un rire aigu chaque entrée de sa rivale, allumant ainsi la salle entière. C'était une première vengeance. Aussi, lorsque Nana, le soir, se retrouva seule avec Muffa, très chagrin, lui dit-elle furieusement « Hein, quelle cabale! Tout ça, c'est de la jalousie! Hein, s'ils savaient comme je m'en fiche, est-ce que j'ai besoin d'eux maintenant? Tiens, sans Louis, que tous ceux qui ont rigolé, je les amène là, à lécher la terre devant moi. Oui, je vais lui en donner de la grande dame, à ton Paris. »